Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. L'ogre avait 7 filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fortes méchantes, mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait couchées de bonne heure et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les sept petits garçons, après quoi elle s'alla coucher auprès de son mari. Le petit poussé, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgées dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit et, prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne afin que l'ogre les prit pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé sur le minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau, « Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles, n'en faisons pas à deux fois. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous, excepté le petit poussé, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre qui sentit les couronnes d'or, « Vraiment, dit-il, j'allais faire là un bel ouvrage. Je vois bien que j'ai bu trop hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où ayant senti les petits bonnets de garçon, « Ah, les voilà, dit-il, nos gaillards, travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa, sans balancer la gorge, à ses sept filles. Fort content de cette expédition, il alla se coucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour.
Nous avions abandonné il y a 15 jours le petit poussé et ses frères dans une bien mauvaise posture, car ils étaient promis une mort certaine dans la maison de l'ogre. Alors nous venons de l'entendre, la suite de cette histoire, et l'on voit que le petit poussé fait de nouveau des merveilles. Mais si vous le voulez bien, docteur Dominique Desmichel, reprenons pas à pas le cours de ce récit. Alors, l'ogre avait 7 filles, docteur Dominique Michel, on se retrouve encore avec le chiffre 7, et puis on ne peut pas s'empêcher de voir une correspondance entre évidemment les 7 enfants et puis les 7 filles de l'ogre.
Oui, tout à fait, tout à fait. Hein. Je pense que c'est important de se dire qu'on est dans une scène de la forêt. On est dans une maison dans la forêt. Donc il se passe quelque chose à un autre niveau que le niveau de la réalité hors de la forêt.
Hein. On l'a dit, hein, la forêt, dans tous les contes, c'est l'inconscient, c'est en tout cas un espace magique, merveilleux, où tout est possible.
Où tout est possible, peut-être un lieu originel, hein, puisque la vie est dans la forêt, on déchiffre et on défriche la forêt pour pouvoir l'habiter, pour le meilleur souvent, aussi pour le pire, on le voit bien actuellement sur le plan écologique, par exemple.
Et c'est un lieu de passage, hein. On n'habite pas la forêt, sauf les êtres merveilleux, les sorcières, ouais. Les ogres, mais généralement dans les contes, les héros traversent la forêt, en reviennent, en sortent, mais a priori n'habitent pas dans la forêt.
Absolument.
C'est un lieu vraiment spécifique.
Hein. Tout à fait, ils n'y habitent pas, mais c'est un lieu de ressourcement aussi.
Et hein, de ressourcement.
Comme si c'était une source, une origine, à la fois sur le plan de l'être, hein, sur le plan ontologique, mais aussi sur le plan presque naturel, sur le plan phylogénétique. Hein. Et on sait bien que phylogénèse et ontogénèse, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, il y a notre côté, pour reprendre un petit peu ça, on a un côté pierre à l'intérieur de nous, minéral, on a un côté plante, voilà, plus végétal, on a un côté animal, les pulsions animales, par exemple, à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, on a une partie humaine. Hein. Donc, tout ça se rejoint.
Alors, comme dans beaucoup de contes, on voit un parallèle qui se crée comme une espèce de point d'équilibre qu'il va y avoir entre une première partie du conte et une deuxième partie. Et là, nous avons donc les sept filles de l'ogre face aux sept enfants, aux six frères du petit poussé.
Voilà. Donc, il y a la scène qui est à l'extérieur, dans la vie, ça correspond à la vie de tous les jours, on pourrait dire. Et puis, il y a cette deuxième scène où on a vu qu'il y avait d'abord la femme de l'ogre, hein, et ensuite, il y avait l'ogre, et puis ensuite, il y a ces sept filles. Et vous avez raison de souligner le parallèle entre les deux. Il y a sept garçons d'un côté et il y a sept filles. Donc, je propose à nos auditeurs de retenir ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est au fond que dans cette famille, il y a eu sept garçons? Et puis que là, dans la famille de la forêt, on pourrait l'appeler dans la famille de la forêt, il y a un père aussi, mais c'est un père ogre, et que ce père ogre, il a sept filles. Alors, on va laisser ça. Simplement, on peut remarquer que dans la famille, dans la vie, le couple n'a pas pu avoir de filles. Et on pourrait se dire que dans la famille de l'ogre, eh ben, il n'y a pas de garçons, mais il y a uniquement des filles.
Alors, si on poursuit la comparaison, on est face à cette petite ogresse qui sont plutôt indifférenciées comme peuvent l'être les six frères du petit poussé.
Voilà. Alors là, on voit aussi une différence, hein, c'est-à-dire que les sept filles sont totalement similaires.
Ouais,
voilà.
Elles sont pas une pour attraper l'autre, quoi.
Non, elles sont nommées de manière collective. Tandis que chez les garçons, il y a les six hein, par paire. On a vu 2 plus 2 plus 2. Puis ensuite, le petit poussé, et on va essayer de comprendre au fur et à mesure quelle est la fonction de ce petit poussé, qu'est-ce qu'il vient faire en profondeur, ce petit poussé. Donc on apprend au fond que ces filles-là sont couchées dans un lit, on a un petit peu l'impression dans l'histoire que c'est le même lit, elles ont des têtes couronnées, et...
Ah oui, cette couronne-là, alors parlons-en.
On aura envie de dire que pour des reines, les couronnes. Hein.
Couronnes d'or en plus. Hein.
Oui, des couronnes d'or, on pourrait se dire qui est le roi. Hein, qui est le roi. Quand il y a des reines, il y a des rois. Donc ici, on a envie de se dire peut-être que le roi, finalement, c'est l'ogre. Mais on ne sait pas très bien quel est leur royaume, on ne sait pas très bien qui est le roi, on ne sait pas très bien sur quoi elle règne. En tout cas, on a l'impression qu'elles ne sont pas particulièrement sympathiques. Hein. En tout cas, ces enfants-filles, là, puisqu'il y a des petits détails qui disent qu'elles s'intéressent déjà bien à la chair humaine et que leur histoire de vie risque de les amener à une forme d'identification au père, dans aussi quelque chose qui ne serait pas du tout différencié. Donc, exact opposé des six filles par rapport des sept filles par rapport aux sept enfants abandonnés. J'aurais envie de dire, la petite différence que je soulignais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un petit poussé, ou plutôt une petite poussette. Hein,
ouais, c'est une symétrie presque parfaite, sinon il n'y aurait peut-être pas d'histoire d'ailleurs.
Voilà. Mais on sait en même temps que dans cette maison, il y a un autre lit, hein, dans la chambre des enfants, comme si là, on retrouvait aussi un lit pour le masculin, un lit pour le féminin, un lit pour les garçons, un lit pour les filles. Et j'invite bien les auditeurs à se rappeler de ça. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre aussi comment circulent le masculin et le féminin. Et on voit bien que dans la famille au bord de la forêt, il n'y a que des garçons. Dans la famille dans la forêt, il n'y a que des filles.
L'ogresse, la mère, va se coucher. Et à partir de là, le petit poussé fait encore des merveilles, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il va réussir à dénouer l'histoire grâce à son subterfuge.
Tout à fait. C'est là où on sent qu'il est un peu génial, là, ce petit personnage, puisqu'il vient introduire quelque chose de très particulier qu'on pourrait appeler, il me semble, une différenciation. C'est-à-dire que les six enfants au bord de la forêt et les sept filles de l'ogre dans la forêt ne sont pas nommées ou quasi pas. On a vu un petit peu l'aîné était nommé pour les garçons, mais à peine. Et lui, il fait une différence, c'est-à-dire il y a les garçons qui ont sur la tête quelque chose, un bonnet, et les reines et les filles qui ont une couronne de reine. Et donc, il va faire l'échange. Il remplace les bonnets, peut-être les bonnets d'âne, par les couronnes, et il met à la place des couronnes le bonnet. Ce qui signifie qu'il a l'intuition, lui, que la manière qu'a l'ogre de reconnaître ses propres enfants et les enfants des autres, c'est en leur touchant la tête. Hein. Donc vous voyez, ça veut dire, s'il leur touche la tête, ça veut dire qu'il ne les voit pas. Donc ça veut dire que le lien de l'ogre avec ses enfants, c'est un lien qui se fait dans le noir, hein, comme s'il était complètement aveugle, hein, puisque c'est simplement avec le coucher, avec le toucher, que mon lapsus, je vous vois sourire en dit long, mais le toucher et le coucher, on voit bien ici que c'est quelque chose qui est similaire, puisque on sait bien ce qui va se passer par la suite.
Alors finalement, le petit poussé, c'est un espèce de petit grain de sable qui enraye la grande machine du destin à chaque endroit de l'histoire.
Oui, il a l'intuition de quelque chose, il a compris qu'il allait se passer quelque chose dans la nuit de la forêt, dans la nuit de l'ogre, dans l'aveuglement de l'ogre, et donc il se protège. On pourrait imaginer qu'il se sauve, par exemple. Non, c'est pas ce qui est nécessaire. Il semble bien que dans la mise en scène qui se joue dans la forêt, il y ait la nécessité que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir, oui, c'est-à-dire au fond le drame. Hein. Le drame, c'est donc l'ogre qui monte, et nous l'avons déjà dit, mais je réinsiste là-dessus, il n'y a pas de dévoration. On a vu que la veille au soir, hein, dans la nuit, là, quand les enfants, les garçons arrivent chez la femme de l'ogre, on a une idée autour de la dévoration. Mais ce n'est pas une dévoration qui se passe. Il sort avec son gros couteau et il égorge les enfants. Hein, les enfants. Et pour l'instant, il ne sait pas qui c'est. Et une fois son forfait, son crime, son viol, il me semble, accompli, il repart se coucher.
L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme « Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier au soir ». L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari. Ne se doutant point de la manière qu'il entendait, qu'elle les habilla, et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir, elle monta en haut, où elle fut bien surprise, lorsqu'elle aperçut ses 7 filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir, car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah, que n'ai-je fait là ? » s'écria-t-il. « Ils me le paieront, les malheureux, et à tout à l'heure. » Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme, et l'ayant fait revenir, « Donne-moi vite mes bottes des 7 lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. » Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous les côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient ses pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit poussé qui vit un rocher creux proche le lieu où ils étaient, y fit cacher ses 6 frères et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre, qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de 7 lieues fatiguent fort leur homme, voulut se reposer. Et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit poussé en eut moins peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'ils ne se missent point en peine de lui. Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit poussé s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient faites, elles avaient le don de s'agrandir et de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait. De sorte qu'elles se trouvèrent aussi justes à ses pieds et à ses jambes que si elles eussent été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit poussé, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or et tout son argent. dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge, il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a de vaillant, sans en rien retenir, parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ses bottes de 7 lieues, que voilà, pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez pas que je sois un affronteur. » La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits-enfants. Le petit poucet étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit poucet n'a jamais fait ce vol à l'ogre, qu'à la vérité, il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes des 7 lieues parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits-enfants. Ces gens-là assurent le savoir de bonne part et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron. Ils assurent que lorsque le petit poucet eut chaussé les bottes de l'ogre, il s'en alla à la cour, où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieues de là et du succès d'une bataille qu'on avait donnée. Il alla, disent-ils, trouver le roi, et lui dit que, s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent, s'il en venait à bout. Le petit poucet rapporta des nouvelles dès le soir même, et cette première course l'ayant fait connaître, il gagnait tout ce qu'il voulait, car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée, et une infinité de demoiselles lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leur fiancé, et ce fut là son plus grand gain. Il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de lettres pour leur mari, mais elles le payaient si mal, et cela allait si peu de choses qu'il ne daignait mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté-là. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier et y avoir amassé beaucoup de biens, il revint chez son père, où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise, il acheta des offices, de nouvelles créations pour son père et pour ses frères, et par là, il les établit tous et fit parfaitement bien sa cour en même temps. Docteur Dominique Desmichel, nous reprenons le récit du petit poucet. Alors le petit poucet et ses frères se sont sauvés dans la forêt, se sont habillés, se sont sauvés dans la forêt. C'est toujours la nuit. Et à l'aube, l'ogre se réveille et envoie sa femme chercher les enfants.
La femme monte peut-être à l'étage, elle découvre ce qui s'est passé, ça semble en tout cas l'émouvoir parce qu'elle perd conscience pendant un certain temps, probablement avant de reprendre conscience. On ne sait pas de quoi il s'agit, de quelle conscience il s'agit, mais voilà. Les filles sont découvertes dans leur nudité aussi. On comprend bien de quelle nudité il s'agit s'il s'agit d'un crime sexuel, puisque l'ogre est venu non pas avec une bouche dévoreuse, mais avec un couteau phallique violeur. Et lui aussi, il a l'air un petit peu ému.
On le serait à moins, hein. C'est cette fille, il vient d'égorger cette fille.
Oui, en même temps, ça n'a pas l'air d'être non plus tout à fait terrifiant pour lui. Hein. Ni d'ailleurs
ça reste un ogre.
Voilà, ça reste un ogre. Voilà. Ça reste un ogre. Et puis, il avait proposé de partager les choses avec ses copains, donc... Voilà, peut-être les choses sont un petit peu interchangeables et c'est probablement ce que l'on remarque chez les êtres qui sont pédophiles en particulier. Hein. C'est-à-dire, on passe d'un objet à consommer à un autre objet à consommer.
Alors, arrive dans cette histoire ce très fameux accessoire que tout le monde connaît, les fameuses bottes des 7 lieues. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter, ces bottes-là ?
Alors, d'abord, on peut remarquer aussi qu'on retrouve le chiffre 7, hein, on en avait parlé un petit peu. Le 7, c'est beaucoup de choses. J'aurais envie de rappeler que ça peut être un 4 plus un 3, un 4 qui renvoie à une sorte d'horizontalité, à une sorte d'immanence, hein, c'est le rapport au monde. Donc, les 4 saisons, les 4 points cardinaux pour dire quelque chose de l'ordre du temps et de l'espace. Hein. Et puis le 3 qui renvoie plutôt à une verticalité, à une transcendance, à une interrogation en tout cas sur le sens. Alors l'ogre, il prend donc ses bottes Et vraisemblablement, il a dû s'en sentir un petit peu dépossédé et il se met à courir. Il se met à courir, à courir, à courir. Et s'il fait 7 lieues à chaque fois, en sachant que les autres qu'il poursuit sont des enfants, on a envie de se dire pourquoi il ne les rattrape pas rapidement, hein. Alors peut-être qu'il ne sait pas très très bien où chercher, mais ça n'a pas l'air d'être tout à fait le problème, puisqu'il va en fait relativement vite les rejoindre. Alors courir, comment on peut essayer de penser ça? Moi, je me disais qu'on pourrait se dire qu'on peut courir après une idée, après un projet, après un fantasme, après une personne. Je crois que si on se rappelle de ce qui vient se passer, alors il faut se dire que la mise à mort, parce que c'est le seul crime qui se produit au fond dans ce conte, c'est la mise à mort abjecte des filles, la mise à mort du féminin. Donc je crois qu'on pourrait, là où on en est, se dire, si on essaie de comprendre ce texte, qu'il y a un féminin qui se cherche, et si on se dit qu'on cherche un féminin, j'aurais envie de dire que, et qu'on l'associe au verbe courir, j'allais dire, les garçons, ils courent après les filles, hein. Donc il me semble que l'ogre, là, on pourrait dire qu'il part courir après un féminin. Alors c'est vrai quand on est adolescent, mais il faut se rappeler que normalement ça ne se joue pas entre les adultes et les enfants. Les adultes, ils courent pas après les enfants. Voilà. Et c'est important de noter aussi que c'est sa femme qui doit lui donner ses bottes. Comme si au fond, lui, sa virilité était une virilité un petit peu de pacotille, en tout cas incertaine, et que elle avait été particulièrement blessée ou mise en cause par le forfait et la tragique méprise de la nuit. Toujours est-il que l'ogre, il court, il rejoint les enfants, et il y a ce petit détail qui est que les enfants sont à 100 pas du logis du père bûcheron, hein, puisque j'ai appelé le père ogre, c'est un père puisqu'il a 7 filles, et puis il y a le père bûcheron. Et donc probablement les enfants sont pas très loin s'ils sont à 100 pas. C'est d'ailleurs intéressant de noter que c'est le logis du père, pas le logis du couple, c'est le logis du père. On va y essayer de comprendre après tous ces petits détails comment on peut les saisir. Alors on pourrait se dire, bon, bah allez, encore 100 pas à faire, la belle affaire, c'est pas très très long.
Mais de nouveau, le petit poucet
Voilà, et
va sauver le clan.
voilà, parce que ça peut pas se clore. Ça peut pas se clore et l'ogre finalement, il est à la fois menaçant et terrifiant et en même temps c'est comme si d'un seul coup il ne l'était plus puisque il est épuisé et il s'endort.
Oui, et puis on se rappelle que les contes finissent bien, en règle générale, même dans leur immense majorité, hein,
Voilà.
parce qu'il s'agit de rétablir un équilibre qui avait été détruit à la base. Hein,
Tout
donc,
à fait,
voilà.
tout à fait. Mais on n'est pas là dans un récit où il s'agit de faire que ça se termine bien. On est là dans un récit qui montre comment il faut faire
Exactement.
pour que ça se termine bien. C'est-à-dire la
Oui,
causalité est tout
oui,
à
oui.
fait inverse. C'est pas je commence un film à l'américaine où le héros et l'héroïne commencent par se disputer, à s'engueuler, à se détester, et on sait qu'à la fin du film, ils vont être en couple. Non. Là, on est dans quelque chose qui dit un drame, et le récit du conte, c'est de montrer comment il va falloir faire pour que ça se termine bien. Donc là, on est au moment où on est près d'un rocher, peut-être d'une espèce de grotte. Et puis, les enfants sont terrifiés, mais l'ogre, lui, il s'endort, il est complètement épuisé. Même dans son sommeil, dit le comte, il est effrayant, mais il semble tout de même quand même perdre de sa puissance. Et là, il va se passer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'apparition de ses bottes. Alors, ces potes, on a envie de se dire, bon, qu'est-ce que ça raconte? Ça sert à courir, mais on va voir au fur et à mesure que ces potes ont une fonction bien, bien particulière. Et là, l'espèce de petite intuition géniale du petit poucet, on ne sait pas très bien d'où ça lui vient, mais il se dit, je vais récupérer les bottes de l'ogre. Donc, il récupère quelque chose de l'ogre, hein? Il le prend, il le met sur lui, et il va récupérer au moins la vitesse de déplacement, hein? On pourrait se dire, tiens, voilà de quoi se sauver, mais non, il va pas, il retourne pas chez son papa dans la maison au bord de la forêt, il va voir la femme de l'ogre. J'invite là encore les auditeurs à se dire, tiens, ouais, comment on va essayer de pouvoir comprendre après qu'il retourne voir la femme de l'ogre? Et qu'est-ce qu'il fait? Il invente complètement une histoire. Et alors, cette histoire est drôle. Hein. Il pourrait dire, je sais pas, l'ogre est tombé dans un puits, il est mort, ou je sais pas trop quoi, ou il a avalé un petit truc sauvage et il est mort empoisonné, ou il a voulu manger quelqu'un et puis il est mort étouffé. Non, il dit pas ça. Il dit presque le contraire. Il dit la vulnérabilité de l'ogre. Et il dit que l'ogre est en danger et qu'il ne peut être sauvé que si son or est donné au petit poussé. Alors on pourrait se dire, tiens, voilà un petit poussé un peu vénal qui se dit, pendant que l'ogre roupille, je vais récupérer son trésor.
J'en profiter, bien sûr.
Voilà. Mais c'est absolument pas la pédagogie du conte. Hein. Le conte, il n'est pas là pour se dire comment récupérer des sous sans faire le moindre effort. Il est là pour se dire qu'il y a quelque chose d'un processus qui est en train de se dérouler et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, quand le petit poussé dit l'ogre est en danger, il dit vrai. Il dit que l'ogre est en danger. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un ogre en danger ? Bon, ben, c'est comme ça. On garde ça et on va essayer de comprendre pourquoi. Et il dit, pour sauver l'ogre, il faut que moi, le petit poussé, je récupère son trésor. C'est un peu bizarre, ça fait louche, mais c'est comme ça.
Oui, en tout cas, il retourne chez lui avec le trésor et l'histoire pourrait s'arrêter là.
Voilà, exactement. Il pourrait repartir avec le trésor. Il a les bottes. En passant, il récupère les six frères. Et puis, ouais, tout est bénéfique. Alors, je crois que c'est important de se rappeler aussi que le petit poussé, il demande de l'aide à la femme de l'ogre. Il fait un récit. Et je crois que ça fait penser à la scène qui s'est produite la nuit précédente quand les enfants sont arrivés dans la maison de l'ogre. La veille, vous vous rappelez, la nuit, il y avait les loups, il y avait l'angoisse, et là, qui menaçait les sept garçons. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des voleurs vis-à-vis de l'ogre. Et les voleurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un poignard. Un poignard qui menace l'ogre et ils menacent de le tuer ou d'égorger l'ogre. Qu'est-ce qu'on se dit tout de suite, si on repense à l'histoire du récit? On se dit, ben, on est dans la même situation. Les enfants, ils étaient menacés par l'ogre, et l'ogre, ensuite, allait égorger, c'est-à-dire violer les enfants. Évidemment, il y a eu la substitution, donc c'est les filles qui en ont fait les frais. Mais là, l'ogre, il est dans la même situation. Alors là, on a envie de se dire, mais qu'est-ce que c'est au fond que ce personnage terrifiant, qui d'un seul coup devient extrêmement vulnérable, qui s'est qui n'a plus de défense, qui n'a plus ses bottes et qui menace à son tour, à mon avis, d'être violé.
Mais alors ça, on le verra dans une seconde lecture du conte à un niveau beaucoup plus intérieur. Poursuivons, parce que le temps tourne, poursuivons la conclusion de ce conte, car cette histoire ne s'arrête pas au petit poussé rentrant chez lui, les bras chargés d'or et sauvé de l'ogre.
Donc là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau et ça tourne autour des bottes, là encore aussi, comme s'il y avait une espèce de suspicion qui était à côté. Attaché aux bottes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrouve, comme vous le dites, c'est pas un seigneur, ici c'est un roi, mais en tout cas, c'est du côté d'un pouvoir au-dessus, et on se retrouve dans un royaume. Et là, on retrouve encore quelque chose d'important qu'on va reprendre par la suite pour comprendre, c'est qu'il y a un roi, le royaume va mal, c'est la guerre, mais qu'il n'y a pas de reine. Voilà, donc j'ai envie de dire, de me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un royaume dans lequel il n'y a pas de reine, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire que ce royaume soit en guerre. Donc, le petit poussé repart à l'aventure.
Il propose ses services au roi.
Voilà, donc il me semble qu'en retournant voir le roi, on change de génération, hein, il monte d'un cran plus haut, il ne reste pas à l'étage de ses parents, que ce soit le couple du bûcheron et de sa femme, ou que ce soit le couple de l'ogre, du père ogre, et puis de sa femme. Qu'est-ce que va faire le petit poussé quand il arrive là? Eh bien, il va faire du lien entre le roi et son armée, il va faire du lien entre les demoiselles et leurs fiancés, et le comte dit, ce fut là son plus grand gain. Hein. Donc c'est assez étonnant, hein. On peut penser que le trésor de l'ogre, ce n'était pas 10,50 €, mais que c'était un grand trésor.
Un trésor volé, c'était bien ça le problème.
Oui, probablement volé ou en tout cas récupéré.
Oui, de manière avec ruse en tout cas. Oui,
oui avec ruse. Avec une certaine ruse ou en tout cas avec un récit, c'est-à-dire il y a une fonctionnalité particulière. Mais il y a quelque chose d'autre dont on voit bien que là, il n'est pas du côté de l'avoir, hein, c'est pas de l'or, même si l'or représente quelque chose de l'ordre d'une énergie psychique, c'est du côté du lien. Hein, oui. C'est-à-dire, on est du côté de l'être, hein, et on n'est pas du côté de l'objet.
Ainsi s'achève notre émission. Un grand merci au docteur Dominique Demichel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission sur le petit poucet.